À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il serait question d'un des personnages les plus intéressants du début de la Nouvelle-France. Un Italien, le seul Italien qui soit venu comme missionnaire, seul Italien jésuite, c'est Francesco Bressani, ou François Bressani, comme on l'appelle généralement, et qui est mort en Italie en 1672, après avoir passé quelques années à deux reprises ici. Dans notre pays, il est arrivé quelques jours après la fondation de Montréal en 1642. C'est un humaniste. C'est un jésuite de très grande envergure, un écrivain aussi, un cartographe. Le père René Latourelle en a reproduit une de ses cartes. Dans son très beau livre paru au mois de mars dernier, je crois, François-Joseph Bressani, missionnaire et humaniste, paru chez Bellarmine, je vous conseille fortement cet ouvrage dont je vous reparlerai et qui m'inspire beaucoup pour cette émission aujourd'hui. Il était aussi, François Bressani, ce père Bressani, astronome, historien, très bon prédicateur, même en français, en huron, puis évidemment en italien. Et il a été abominablement torturé. C'est un martyr vivant, comme disait Marie de l'Incarnation à son fils Claude Martin, bénédictin en France, quand elle lui a écrit. Un martyr vivant, un peu comme Saint Isaac Jogg, autre jésuite du début de la Nouvelle-France. Monseigneur André Chimichella a présenté dans la collection Nos grandes figures, il y a plusieurs années, un François-Joseph Bressani, à l'occasion du 350e anniversaire de son arrivée en Nouvelle-France, 1642-1992, c'est donc publié il y a quelques années. Et c'est très intéressant, c'est 125 pages seulement, mais il a réuni là des extraits des ouvrages qui ont été consacrés à Bressani ou qu'il a écrit, et c'est très bien fait. Je reviens donc à l'ouvrage du père René Latourelle, paru récemment aux éditions Bellarmine. Sur la vie de Bressani, de la période qui s'étend de sa naissance à Rome le 6 mai 1612. Il est né le 6 mai 1612 à Rome, à son entrée au noviciat du Quirinal le 15 août 1626. Savez-vous, faites-vous le calcul, du 6 mai 1612 au 15 août 1626. Ça veut dire qu'il est entré à 14 ans. Mais nous ne savons absolument rien de sa jeunesse, sur ses parents, sur sa famille, rien. Mais le premier événement qui le fait connaître, c'est évidemment qu'il entre à 14 ans. C'est absolument merveilleux, phénoménal. Déjà à 15 ans, il demande à partir en mission. À 16 ans, il réitère ses demandes, mais il fait de brillantes études. On a quelques idées de ses études, mais il fait de nombreuses études. Après son noviciat chez les jésuites de 1626, donc l'année de son entrée à 1628, il entreprend des études de philosophie au Collège romain pendant 2 ans, puis il suit une période de 2 ans encore, qu'on appelle chez les jésuites la régence, c'est-à-dire le temps où il se met à enseigner. Il était tout jeune, il avait à peine quelques années de plus vieux que ses élèves, et puis il est professeur de 5e à 7e, et puis le troisième, c'est-à-dire l'âge d'environ 14-15 ans. Mais lui, il avait déjà fini sa première année de philosophie à 14 ans. Il était très brillant, comme vous voyez. Il enseigne à Tivoli. Et ses années d'enseignement s'insèrent entre les études philosophiques et théologiques. Et c'est tout à fait dans la formation des jésuites, déjà à l'époque. Et on l'appelle donc le scolastique. Les jésuites sont des scolastiques à ce moment-là. Et il fait un double apprentissage, c'est celui de ses ressources puis de ses limites. En somme, celui du monde réel. Il est confronté au monde réel. Et Bressani était à peine âgé, comme j'ai dit, à peine plus âgé que ses étudiants, 20 ans, quoi. Et à cet âge, On ne connaît évidemment pas la fatigue, on se donne entièrement. Hein? C'est aussi l'âge des initiatives, dit le père Latourelle, des rêves de grandeur partagés par des étudiants qui sont avides de connaître et de conquérir le monde. Et chose certaine, ce jésuite qu'on peut appeler le régent, quand il enseigne, passé au feu de l'enseignement, là, il entreprend ses études théologiques avec plus de réalisme et de maturité, puis Bressani va devenir un prédicateur célèbre, vraiment très célèbre. D'autant plus que quand il prêche en Italie après avoir été torturé, il est une image vivante du don de soi total. Sa simple présence, disaient les Hurons quand il est revenu, sa simple présence témoigne de la véracité du Dieu des chrétiens. Il a des dons de pédagogue. Il a aussi des dons de prédicateur. Autrement, au moment, c'est-à-dire où il entreprend ses études théologiques, là, au Collège romain de 1633-1636, Bressani fréquente une institution, au fond, qui est déjà célèbre. Hein? Ça a été fondé en 1551, ça, près de 100 ans plus tôt, disons 80 ans plus tôt, par Saint-Ignace lui-même. Ça avait été fondé grâce à une généreuse donation de Saint-François de Borgia, qui était duc de Gandie, en Espagne, et futur général de la Compagnie de Jésus. Très grand saint, François de Borgia. Alors, le Collège romain est ouvert aux étudiants de toutes les nations. Il a déjà ce caractère international qu'il a conservé. L'enseignement y est gratuit, en plus de ça, ce temps-là. Et le Collège romain connaît un rythme de croissance fantastique. C'est plein, plein d'élèves. Mais son noviciat n'est pas encore terminé, qu'il demande, comme je vous ai dit, d'aller à la mission lointaine. Et en juillet 1627, à 15 ans, il écrit au père général, « Je manifeste à votre paternité révérendissime. » Voilà comme on parlait dans ce temps-là. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore comme ça. « Je manifeste à votre paternité révérendissime que j'irai volontiers aux Indes ou en toute autre mission. » Il est prêt à l'obéissance, à 15 ans. En septembre 28, il a 16 ans, après avoir lu une vie de Saint-François-Xavier, puis avant même d'entreprendre ses études de philosophie, il sollicite de nouveau du général l'autorisation de partir pour la mission des Indes. C'est absolument phénoménal le caractère de ce Bressani. Comme j'aimerais qu'on ait un... On ait eu un appareil photo à l'époque. Pour prendre l'expression de ce jeune garçon. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui habitait ce jeune garçon de 14, 15, 16 ans? Le 12 mars 1637, alors que Bressani est à Paris pour y terminer des études de théologie, le général le félicite pour son désir d'aller en mission, mais il doit toutefois auparavant achever sa formation. Enfin, dans une lettre du 20 février 1638, à 25 ans, le père général précise qu'il réfléchira encore sur la mission à laquelle il va le destiner. Bressani, finalement affecté à la Nouvelle-France, il s'embarque pour le Canada à Dieppe avec... le père Lejeune, dont je vous ai déjà parlé, et le père Quentin. C'est en avril 1642 et le mois suivant, la fondation de Montréal, le 17 mai. Donc, alors qu'il traverse l'océan, on fonde Ville-Marie. Il n'a pas tout à fait 30 ans quand il s'embarque. On comprend l'attitude du père général à l'égard de Bressani. Il doit freiner la fougue de ce jeune jésuite, qui est encore trop jeune pour être envoyé dans l'une des missions les plus dures du monde, celle de la Nouvelle-France. La Compagnie de Jésus, à l'époque, était pleine de jeunes extraordinaires. Après 100 ans d'existence, au temps du général le père Vitelleschi, la Compagnie compte déjà, écoutez bien ça, c'est incroyable, 521 collèges, quand on pense que les 5 collèges des jésuites du Québec sont disparus. Ou du moins, ils ne sont plus jésuites. Quelle tristesse! Donc, la Compagnie de Jésus compte 521 collèges, 49 séminaires, 54 noviciats, 280 résidences et missions, et 16 000 jésuites déjà. En 1622, la canonisation de Saint-Ignace et de Saint-François-Xavier, alors que notre petit Bressani n'avait qu'à peu près 10 ans, ça avait jeté un nouvel éclat sur la Compagnie. Bressani lui-même affirme que la lecture de la vie de Saint-François-Xavier a joué un rôle déterminant dans la progression de sa vocation. Donc, de Dieppe, le 22 avril 1642, Le père Lejeune écrit au père Vitelleschi pour lui dire qu'en Nouvelle-France, on attend Bressani, Quentin et lui-même. Et Bressani, de son côté, le 28 avril 1642, salue son général peu avant son départ pour la Nouvelle-France. Et effectivement, il débarque à Québec à la fin de juillet 1642, n'est-ce pas? Montréal a été fondé 2 mois plus tôt. Et on retrouve que il a préféré l'apostolat des sauvages au Nouveau Monde. Les épreuves du noviciat, ses études philosophiques, de théologie, il enseigne la littérature, la philosophie, les mathématiques, on le destine à l'apostolat des grandes villes, mais il préfère toujours l'apostolat de ce qu'on appelle des sauvages à l'époque du Nouveau Monde, c'est-à-dire des Amérindiens, puis arrivé donc à Québec en 1642, comme je vous ai dit. Il commence sa vie d'apôtre auprès des Français, d'abord, parce qu'il connaît déjà un peu le français, mais il va le parler très, très bien. Et il continue ça aux Trois-Rivières, aussi auprès des Algonquins. Alors, il faut qu'il apprenne les langues, particulièrement le huron. Il se forme, il s'essaie à des tâches extrêmement rudes. Il se prépare par le travail et la prière à une destinée qui lui avait été prédite, d'ailleurs. Quelqu'un lui avait dit, dit-on, avant de quitter la France, quelqu'un qui était éclairé par Dieu, prétend-on, lui avait dit ce qui lui arriverait un jour. On trouve ça dans la biographie du père Pressani, du père Martin. Et le père Bressani, donc, part des Trois-Rivières le 27 avril, accompagné de 6 Hurons chrétiens et d'un jeune Français monté sur 3 canots. Je m'inspire ici de Rochemontais, qui a publié au siècle dernier Les Jésuites de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. C'est dans le 2e tome, ça. Le jeune Français, je crois que c'était Guillaume Couture, n'est-ce pas? Il avait 13-14 ans. Puis le 3e jour, ils sont dans 3 canots. Hein? Puis le 3e jour, ils tombent dans une embuscade de 27 Iroquois, non loin du fort Richelieu. Ça vous dit quelque chose? Hein? Et tous sont faits prisonniers. Ils avaient des lettres qu'ils allaient porter à la mission Huron, à des Jésuites. Ils sont saisis puis déchirés, puis toutes les provisions sont destinées donc aux missionnaires Hurons sont capturées. Et un brave Huron, Bertrand Sotrioscon, avait été tué en se défendant, et les Iroquois, excusez-moi, lui coupent par morceaux les bras et les jambes et les font bouillir, avec le cœur, dans la marmite, ils lui ont arraché le cœur. Ils dévorent tout ça. Ils se mettent en route et remontent la rivière Richelieu jusqu'au canton des Agnés. Alors les Iroquois, les prisonniers, s'arrêtent, finalement, au village d'Ossernénon. Comme le père Isaac Jogues, saint Isaac Jogues, eh bien le père François Bressani a raconté ses propres souffrances. Son récit, c'est vraiment un modèle. Un modèle de pureté littéraire, de simplicité aussi. C'est inséré dans sa Breve Relazione, qui a été publié de son vivant à Macerata, en Italie. Ça avait été dédié au cardinal de Lugo et c'est devenu un livre lu partout. Les gens se lisaient ça. Le père Latourelle en transcrit une assez grande partie qui pourrait durer une demi-heure si je vous lisais tout ça, mais c'est tellement horrible que je préfère ne pas trop insister. En le lisant, on éprouve un sentiment d'horreur, de dégoût. Mais heureusement, c'est mêlé à une profonde et religieuse sympathie, et c'est ce que j'ai ressenti à l'égard du père François Bressani. C'est un peu comme les récits de la Passion. On en aime davantage Jésus quand on médite sa passion. On en aime davantage le père Bressani et ses frères jésuites martyrisés, dont je vous parlerai dans quelques jours à l'occasion du 350e anniversaire du martyr des saints martyrs canadiens, jésuites. Rien de plus émouvant que la narration du père Bressani. Les péripéties sont douloureuses, mais elles se mêlent à des luttes intérieures, à des sentiments élevés. Je ne vous donne pas ici tous les détails de cette très dure captivité qu'il ose, avec beaucoup de simplicité et d'humilité, raconter à son général, le jésuite qui dirige l'ordre à Rome. Il faudrait pour cela transcrire toutes les lettres du père Bressani si on voulait tout lire ça. Et celui qui les a écrits n'a plus qu'un doigt entier de la main droite. Puis le sang qui coule de ses plaies ouvertes salit son papier. L'encre dont il se sert est faite de poudre à fusil délayée. Et puis, c'est le sol, la terre, qui lui sert de table. Voici ce qu'il écrit. Je vous en lis une partie. Ne vous effrayez pas. Priez pour tous ceux qui sont martyrs à l'heure où je vous parle. Priez pour tous ceux qui sont martyrs au Timor, oriental, et dans tant d'autres pays, à l'heure où je vous parle. Pensons à tous ces êtres humains qui encore souffrent à cause du manque d'esprit évangélique. Le père Bressani écrit « Je ne raconterai pas tout ce que j'ai eu à souffrir pendant le voyage du fort Richelieu à Osernenon. Il suffit de dire que nous avions apporté nos bagages dans les bois par des chemins non frayés, où on ne trouve que des pierres, des ronces, des trous, de l'eau et de la neige. Et celles-ci n'avaient pas encore entièrement disparu. Or, nous étions nu-pieds. Et nous restions à jeun quelquefois jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi, et souvent pendant la journée entière. Le soir venu, j'étais chargé d'aller chercher le bois et l'eau, et de faire la cuisine quand il y avait des provisions. Lorsque je ne réussissais pas, ou que je comprenais mal les ordres que je recevais des Iroquois, on n'épargnait pas les coups. Le quatrième jour, qui était le 15 de mai, nous nous trouvâmes vers 3 heures. Et avant d'avoir rien pris, sur les bords d'une rivière où étaient réunis pour la pêche 400 sauvages, ils vinrent au-devant de nous et à 200 pas de leur cabane, ils enlevèrent tous nos vêtements et me firent marcher en tête. Les jeunes gens formaient une haie à droite et à gauche. Avez-vous déjà vu le film Robe Noire? Il a été tourné il n'y a pas longtemps. C'est l'expérience d'un jésuite qui passe justement à travers une haie de jeunes qui le frappent. Vous verrez ça dans le film Robe Noire. Donc les jeunes gens formaient une haie à droite et à gauche, tous armés d'un bâton, à l'exception du premier qui tenait un couteau. Quand je voulus m'avancer, celui-ci me barra le passage, et saisissant ma main gauche, il la fendit avec son couteau entre l'annulaire et le petit doigt. Il le fit avec tant de force et de violence que je crus qu'il voulait m'ouvrir la main entière. Les autres commencèrent alors à me frapper avec leurs bâtons, et ils ne cessèrent que quand je fus arrivé au théâtre qu'ils avaient préparé pour nous tourmenter. Il nous fallut monter sur ces écorces grossières, élevé de 9 palmes au-dessus de la terre. C'est pas très haut, 9 palmes, la palme d'une main, n'est-ce pas? De manière à donner, évidemment, à la foule le loisir de nous voir, écrit-il, et de se moquer de nous. J'étais tout couvert de sang qui coulait de toutes les parties de mon corps, et le vent auquel nous étions exposés était assez froid pour le geler immédiatement sur ma peau. Or, un capitaine, me voyant transi de froid, me rendit la moitié d'une vieille soutane d'été en lambeaux. C'était assez pour me cacher, car il était nu, mais non pour me réchauffer. On nous retint quelque temps en ce lieu, entièrement la discrétion à l'indiscrétion des jeunes gens et des enfants, qui me piquaient, me frappaient, m'arrachaient les cheveux et la barbe. Comme on a fait à Jésus-Christ, on lui a arraché la barbe. Le soir venu, les capitaines criaient à pleine voix autour des cabanes. Réunissez-vous, jeunes gens, et venez caresser nos prisonniers. Ils accouraient et se réunissaient dans une grande cabane, et là, on m'enleva le lambeau de vêtements qu'on m'avait donné, et dans cet état de nudité, ceux-ci me piquaient avec des bâtons aigus. Ceux-là me brûlaient avec des tisons ardents ou des pierres rougies au feu. D'autres se servaient de cendres brûlantes ou de charbons enflammés. Ils me faisaient marcher autour du feu sur la cendre chaude sous laquelle ils avaient planté en terre des bâtons pointus. Puis ils passaient environ un quart d'heure à me brûler un ongle ou un doigt. Il ne me reste maintenant qu'un seul doigt entier. Et encore, ils en ont arraché l'ongle avec leurs dents. Un soir, ils m'enlevaient un ongle, puis le lendemain, la première phalange, et le jour suivant, la seconde. J'étais obligé de chanter pendant ce supplice. Ils ne cessaient de me tourmenter jusqu'à 1 heure ou 2 heures de la nuit. Il me laissait alors ordinairement lié à terre et sans abri. Je n'avais pour lit et pour couverture qu'un morceau de peau la moitié trop petit. J'étais même souvent sans aucun vêtement car ils avaient été déchirés. Ils avaient déjà déchiré le morceau de soutane qu'on m'avait donné. Nous partîmes de là le 26 mai. Et après plusieurs jours de marche, nous arrivâmes au premier village de la nation à Osernenon. Ici, notre réception ressembla à la première et fut encore plus cruelle, car outre les coups de poing et les coups de bâton que j'ai reçus dans les parties les plus sensibles du corps, ils me fendirent encore une fois la main gauche entre le doigt du milieu et l'index, et leur bastonnade fut telle que je tombai à terre demi-mort. Comme je ne me relevais pas, parce que j'en étais incapable, ils continuaient à me frapper, surtout sur la poitrine, sur la tête. Oh, j'aurais certainement expiré sous leurs coups si un capitaine ne m'eût pas fait traîner de force de bras sur un théâtre, formé d'écorce encore, comme le premier. Et là, ils me coupèrent le gros doigt de la main gauche et fendirent l'index. Et le soir, un sauvage me fit entrer dans sa cabane. Et nous fûmes tourmentés dans cette circonstance avec encore plus de cruauté et d'audace que jamais. Ils disloquèrent les doigts des pieds et me percèrent un pied avec un tison, comme Jésus a eu ses pieds percés d'un gros clou. Je ne sais, dit le père Bressani, ce qu'ils n'essayèrent pas. Mais le récit des tourments de Bressani, c'est pour ça que je vous les lis, c'est que ça nous encourage à cesser de nous plaindre de ce dont nous souffrons. Et à nous rendre compte que vraiment, nous avons beaucoup de chance de n'être pas à cette époque ou aujourd'hui dans certains pays où les chrétiens sont tourmentés, comme au Timor oriental, tués et assassinés. Un quart de million assassinés, torturés au Timor oriental depuis quelques années. Un quart de million de catholiques. Je reviens donc au récit de François Bressani. Après avoir satisfait à leur cruauté, le père Bressani dit, les Iroquois nous envoyèrent dans un village à 9 ou 10 milles plus loin. Ici, on ajouta au tourment dont j'ai parlé celui de me suspendre par les pieds, tantôt avec des cordes, tantôt avec des chaînes que leur donnaient les Hollandais, car les Iroquois étaient associés avec les Hollandais qui étaient protestants, dans la région de New York, la Nouvelle-Amsterdam, comme on l'appelait. « Pendant la nuit, écrit Bressani, je restais étendu sur la terre nue et attaché, selon leur coutume, à plusieurs piquets par les pieds, les mains et le cou. Pendant 6 ou 7 nuits, les moyens qu'ils ont pris pour me faire souffrir sont tels qu'ils ne m'ont pas permis de les décrire. » C'est lui qui écrit ça. « Il n'ose pas. » Après un pareil traitement, je devins si horrible que tout le monde s'éloignait de moi. Vous savez, on dit que le Christ, après avoir été flagellé, couronné d'épines, était si horrible qu'on ne pouvait presque pas le regarder. Jésus, Après un pareil traitement, je devins si horrible que tout le monde s'éloigna de moi. On ne m'approchait que pour me tourmenter. J'étais couvert d'insectes, sans pouvoir m'en délivrer ni m'en défendre. Les vers naissaient dans mes plaies. J'étais devenu un fardeau pour moi-même. De sorte que si je n'avais consulté que moi, j'aurais regardé la mort comme un gain. C'est Saint Paul qui dit ça à un moment donné, aussi, il y a 2000 ans. Je la désirais, la mort, et je l'attendais, la mort. Mais non sans éprouver une vive horreur du feu. Parce qu'il allait être brûlé. Cette mort ne vint pas, et le 19 juin, contre mon attente, je fus donné à une vieille femme, afin de remplacer son aïeul tué autrefois par les Hurons. Au lieu de me brûler, selon les désirs et la vie de tous, elle me racheta de leurs mains au prix de quelques grains de porcelaine, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des coquillages. La vieille Iroquoise trouva son nouveau parent trop infirme, trop maladroit, pour lui rendre des services. Alors elle l'a vendu aux Hollandais, protestants, pour une somme de 250 à 300 francs. Sa captivité avait duré 4 mois. Il a souffert pendant 4 mois. Je ne vous ai lu qu'un petit résumé, là. Qui aura le courage de tout lire ça? Les Hollandais l'ont fait conduire à La Rochelle, en France, où il est arrivé au mois de novembre 1644. Les Hollandais protestants se sont montrés, au départ, du moins par une lettre de recommandation, très compréhensif et très généreux à l'égard de ce prêtre jésuite. Mais à bord du bateau, où il y a eu des tempêtes effrayantes, l'équipage détestait ce jésuite et ce prêtre. Et là, il a eu aussi à souffrir. D'ailleurs, dans sa lettre au père général Vitelleschi, le père Bressani faisait cette réflexion à la suite de l'énumération de tous ces tourments horribles. Il dit « Je n'aurais jamais cru que l'homme eût la vie si dure. » Et on s'étonne, moi je m'étonne en tous les cas, qu'il ait pu résister à un martyr aussi douloureux pendant si longtemps. Et ce qui étonne encore plus, c'est que quand on le lit, c'est la parfaite liberté qu'il a. C'est la sérénité de l'âme, au creux de la douleur. On voit que le Christ l'assiste et qu'il est en communion avec Dieu. Il dit « Quoi que je fusse à chaque instant à deux doigts de la mort, mon esprit a toujours conservé la même liberté et je pouvais donner à chaque action une attention complète. Mon corps était dans un abattement extrême. Je pouvais à peine ouvrir les lèvres pour réciter un Notre Père. Tandis qu'intérieurement, je m'occupais avec la plus entière liberté. » Écoutez bien, ça c'est extraordinaire. Hein? C'est là qu'on peut, si on s'unit à Dieu, atteindre à une sérénité malgré tous nos deuils, nos souffrances, la mort qui s'annonce. Il écrit « Dieu me fit la grâce d'arrêter en moi jusqu'au premier mouvement d'indignation contre mes bourreaux. Et il me fit la grâce de m'inspirer même des sentiments de compassion pour eux. » On a des récits au XXe siècle de gens torturés qui priaient pour leurs tortionnaires et qui, en priant, les ont convertis. Le père Bressani ajoute « Je n'étais pas insensible à la douleur, je la sentais vivement, mais j'avais intérieurement une telle force pour la supporter que j'étais étonné de moi-même, ou plutôt de l'abondance de la grâce, c'est-à-dire de la présence de l'Esprit-Saint dans son cœur. » Et je croyais me trouver dans le même état que David lorsqu'il disait « Au milieu de mes tribulations, vous avez dilaté mon cœur. » Hein? C'est le psaume 6, verset 2. Et le père Bressani ajoute « Oh, quel Jésus admirable! J'estime plus cette grâce que celle de ma délivrance. » Ça rappelle un assassin, l'assassin de Sharon Tate dont je vous ai déjà parlé, un dénommé Chuck, qui s'est converti en prison et qui disait qu'il se sentait plus libre, la Bible à la main, devant l'autel, que lorsqu'il était présumément libre dans la rue, esclave de ses sens et de la drogue et de la folie. Cette page que je viens de vous lire est le plus beau panégyrique du père Bressani. Hein? En voilà un apôtre. En voilà un vrai religieux. Dans toute leur perfection. On raconte même que la reine régente Anne d'Autriche, elle a entendu le récit de la captivité puis de la délivrance du père Jogues, et puis elle dit aux dames de la cour, « On fait tous les jours des romans qui ne sont que mensonges. En voici un qui est une vérité et où le merveilleux se trouve joint à l'héroïsme le plus admirable. » Or, elle aurait pu dire, cette reine, la même chose du martyr du père François Bressani. Et aucune parole ne serait résumée dans des mots plus vrais, le long et douloureux supplice de ces deux hommes. Le séjour en Europe du père Bressani n'a pas été très long. Il est arrivé à La Rochelle, etc. Il a réussi à quitter son transport et tout. Mais la Nouvelle-France, arrosée de son sens, était toujours l'objet de ses désirs de jésuite missionnaire extraordinaire. Quel homme! Alors, il y est revenu l'année suivante. Ça n'a pas pris de temps. Le père Jogues l'avait précédé depuis un an. Lui qui avait souffert aussi un martyr abominable. Il n'avait pas d'autre ambition que de vivre et de mourir sur la terre de ses premiers travaux pour le Christ. Et de ses douleurs sanglantes. Il semblait même, à l'entendre parler, que cette terre, notre terre, avait un attrait de plus depuis qu'il y avait souffert. Tous deux avaient les mains mutilées, et c'était un empêchement pour la célébration des saints mystères, de la messe et des autres sacrements, particulièrement la messe. Leur piété souffrait beaucoup d'être privée comme ça de dire la messe. Parce que c'était pour ces deux prêtres le plus grand des sacrifices. Mais les papes à Rome ont levé l'obstacle. Un Urbain VIII a répondu au père Isaac Jogues, il serait indigne de refuser à un martyr de Jésus-Christ de boire le sang de Jésus-Christ. Et le pape Innocent X lui a baisé avec respect les cicatrices du père Bressani. Il lui a dit affectueusement, « Vous avez été mutilé pour la publication de l'Évangile, ou pour la transmission de l'Évangile, si vous voulez. » Vous ne devez pas être privé de l'honneur d'offrir le saint sacrifice. On trouve ça dans l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec à la page 53. Quand Bressani est rentré à Québec vers le milieu de 1645, il y avait un événement important qui s'accomplissait. On attendait beaucoup de cela pour la pacification de la Nouvelle-France. Il y avait toujours ces guerres avec les Iroquois. Puis il y avait d'ailleurs les guerres entre les différentes groupe d'Amérindiens qui s'entre-dévoraient littéralement. Hein? C'est terrible. Iroquois, Hurons, Algonquins, Montagnais, Atikamekw et Français réunis aux Trois-Rivières. Ils étaient 400 Amérindiens, je crois, ont traité de la paix. Et le gouverneur de Montmagny avait provoqué cette réunion puis ses alliés étaient en partie démoralisés. Mais lui-même ne pouvait faire la loi aux Iroquois ni punir leur audace. Il avait à peine assez de soldats pour faire respecter les postes français, puis le commerce et l'agriculture étaient en souffrance par suite de la guerre, puis il n'y avait de sécurité nulle part. Alors le père Bressani arrivait dans un moment où on espérait la paix, mais pour combien de temps? Toute la colonie souhaitait la paix, pourvu qu'elle se fasse sans compromettre l'honneur et la dignité de la France. Alors, profitant donc de la paix qui venait d'être conclue entre Français, Iroquois, Hurons, etc., à l'automne de 1645, Bressani monte en Huronie. Et ce retour n'était pas un événement banal, écrit le père Latourelle, car Bressani y était attendu depuis 4 ans. Son nom était connu. On savait le zèle apostolique, on l'attendait depuis 4 ans en Huronie, et le talent de prédicateur de ce jésuite italien, qui venait pour collaborer avec les missionnaires français, alors on connaissait surtout les épouvantables souffrances qu'il avait endurées durant sa captivité iroquoise. Les Hurons avaient sous les yeux la vérité de l'Évangile. Car Dieu disait les uns et les autres, doit être souverainement aimable? Écoutez bien ce que les Hurons disent. « Puisque la vue de 1000 morts et des supplices 1000 fois plus effroyables que la mort ne peuvent arrêter ceux qui nous viennent annoncer la parole de ce Dieu. » D'autres disaient, « S'il n'y avait un paradis, pourrait-il se trouver des hommes, là, qui traversent comme ça les feux et les flammes des Iroquois pour nous retirer de l'enfer et nous mener avec eux dans le ciel ?» Je ne sais lire, l'écrire, mais ces doigts que je vois tronçonner, coupés, sont la réponse à tous mes doutes, déclare ces Hurons. Car je ne puis douter que celui-là ne soit bien assuré de ce qu'il vient nous enseigner, qui, ayant essuyé de si cruelles cruautés, s'il est exposé la seconde voie aussi gaiement que s'il n'avait trouvé dans son premier voyage que des délices en son chemin. La façon de s'exprimer des Hurons était grandiose. Ils avaient un talent oratoire et des expressions magnifiques. Ils parlaient de façon savante, hein, vous savez ça. Ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils avaient le don de la parole. S'adressant ensuite à Bressani, ces Hurons disaient « Montre-nous seulement tes plaies. Elles nous disent plus efficacement que tu ne pourras faire quand tu sauras entièrement parler notre langue. » Que nous devons servir et adorer celui dont tu attends qu'il te rendra et la vie que tu as exposée si franchement pour lui et les doigts qu'on t'a brûlés si cruellement en venant ici pour son service. » Alors, c'est un témoignage silencieux que porte Bressani. Un témoignage silencieux de l'engagement de toute une vie de vrais jésuites. Les néophytes Hurons, conclut le père Raguenaud, dont je vous ai déjà parlé, trouvaient dans ce témoignage porté jusqu'aux frontières du martyr, trouvait, ce sont les mots du père Raguenaud, de nouveaux motifs de croire les vérités que nous venons leur enseigner. Ils ont sous les yeux une monstration, c'est-à-dire une démonstration, si vous voulez, de Dieu qui aime et qui est aimé. Car il faut aimer Dieu pour passer à travers tout ça et revenir. Quel homme que ce Père François Bressani. Ce grand missionnaire qu'est le Père Bressani, en 1645, donc, est revenu à Québec, puis gagne la Huronie, qui est en Ontario, aujourd'hui, en automne. Il visite 23 bourgades en 6 mois. En 1648, il s'aperçoit que les Iroquois cernent la région. Et suivi de 150 Hurons, il se fera un passage jusqu'à Ville-Marie, Montréal, puis il descend à Québec. Le 6 août 1648, 60 canots remontent en Huronie, amenant le père et d'autres missionnaires. 26 Français, dont 12 soldats, du courage. Il atteint le fort Sainte-Marie-du-Sceau. Il est témoin de l'incendie du village par les Iroquois. Il s'enfuit avec les nouveaux convertis, à Saint-Joseph, puis en septembre 1649, l'année suivante, il se rend de nouveau à Québec réclamer des secours pressants, mais il n'y en avait nulle part. Et 6 jours après, il aurait bien voulu reprendre la route des pays d'en haut, comme on dit, mais à Ville-Marie, l'exode des malheureux restes des Hurons vers l'île d'Orléans les attache à leurs pas. Ils ont rejoint leur flottille de 23 canots à 20 lieues en amont de Montréal. Puis là, il y a une embuscade de 10 Iroquois qui vient fondre sur son groupe qui dort. C'est le père qui crie, le premier, le père Bressani, qui a quand même du courage. Il dit « Aux armes !» Ça pourra vous surprendre. Il crie « Il y a situé de chaque côté 2 Iroquois prisonniers. Aux armes !» Et 3 flèches ont frappé le père à la tête. Le 28 juillet 1650, il est de retour à Québec, puis le 2 novembre suivant, bien, on lui demande de rentrer dans sa patrie en Italie, parce que ses forces sont épuisées. En Italie, il se fait remarquer comme orateur dans les grandes villes. Oh, il faut lire ça. C'est extraordinaire, tout ce qu'il prêche, mais le témoignage qu'il rend par les souffrances qu'il a endurées, ses mains, où il ne reste plus qu'un doigt. La renommée de ses tortures touche surtout les âmes. Il meurt à Florence le 9 septembre 1672. On peut lire de lui, comme je vous ai dit au début, la Breve Relazione, qui a été publiée en 1653, ou Relations abrégées de la Nouvelle-France, en traduction française de 1852, par le père Félix Martin, qui était supérieur du Collège Sainte-Marie, qui a donné son nom à la place, qui est là, là où le collège est disparu, sur la rue de Bleury, au sud de Sainte-Catherine, à Montréal. Bressani, à un moment donné, dit « Quand bien même la foi que nous cherchons à introduire dans ces contrées n'eût pas été la cause de la haine et de la cruauté de ces sauvages envers nous, eh bien je n'aurais pas hésité à braver tous ces dangers dans l'intérêt des âmes, dans l'intérêt des âmes. » Il y a des gens qui me demandent pourquoi je fais ça. C'est dans l'intérêt des âmes. Radio Ville-Marie existe dans l'intérêt des âmes. En effet, si on regarde comme une action méritoire de s'exposer à la peste, dit Bressani, je trouve ça très intelligent, si on regarde comme une action méritoire de s'exposer à la peste existait souvent dans ce temps-là, même dans le seul dessein de soulager les corps, eh bien, ajoute le père Bressani, ne dois-je pas m'estimer trop heureux si Dieu me fait la grâce de perdre la vie en secourant et en convertissant les âmes. Voilà pourquoi on porte envie à ceux qui trouvent là la mort. C'est un grand homme. On peut se demander comment Bressani a pu résister si longtemps, 4 mois de captivité, à tant et de si horribles supplices. Il écrit « Je n'aurais jamais cru que l'homme eût la vie si dure, hein, je vous l'ai dit. Normalement, il aurait dû être emporté par des pneumonies successives, mourir d'épuisement ou de faim, de gangrène d'empoisonnement. » C'est qu'il y a eu quelques hommes vertueux parmi les Iroquois qui l'ont secouru en secret. L'extraordinaire courage de Bressani lui vient surtout de sa fibre spirituelle. C'est ce qui nous manque le plus, je pense, aujourd'hui. Cette fibre spirituelle qui vient de l'émerveillement de qui est Dieu et de l'émerveillement de ce que nous sommes, créatures de Dieu éternel. Voué à vivre de lui, avec lui et en lui. Le père Bressani sentait vivement la douleur. Mais j'avais intérieurement, dit-il, une telle force pour la supporter que j'étais étonné de moi-même, ou plutôt de l'abondance de la grâce. Et de son propre aveu, sa force lui vient surtout de celui auquel il a consacré sa vie, le Christ. Il a beaucoup puisé dans les exercices spirituels. Il faut souligner, dit le père Latourelle, un trait important de la personnalité de Bressani, c'est sa magnanimité. Il n'y a chez cet homme aucune petitesse. On trouve au contraire dans sa relation abrégée des chapitres entiers où il exalte la grandeur et la sainteté de ses compagnons d'apostolat, tous français. C'est un missionnaire italien qu'il faut attribuer donc le plus grand éloge, sans réserve, des jésuites français de la Huronie. Le regroupement de 10 de ces grands dans un tableau de plus de 100 pages au lendemain même de leur mort révèle une âme d'une élévation singulière, dit le père Latourelle, assez noble pour reconnaître les merveilles de la grâce chez des hommes d'une autre nation. Loin de faire ombre à une équipe toute française, le père Bressani, italien, en partage le même idéal, la même intensité de vie, le même attachement au Christ, jusqu'à devenir martyr vivant de l'évangélisation. Le père Bressani porte avec lui un peu de cette lumière d'Italien qui contraste heureusement, avec l'austérité des premiers missionnaires français. Il y avait tant de grâce chez cet homme, tant de culture, tant de fraîcheur, tant de désir dès son plus jeune âge de se donner, que Dieu l'a pris à la lettre, on peut dire, et lui a permis de se donner totalement. Je crois qu'on peut le prier et lui demander de nous donner un peu de courage. Un petit peu au moins, nous qui en avons si peu.